Les contes ne sont pas faits.
Les contes ?
Pour endormir les enfants.
D'Albatros.
Mais pour réveiller les adultes.
Les contes d'Albatros.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Campus. Je suis Albatros et comme tous les mardis midi, à l'heure où la sieste pointe, je m'en vais vous raconter tous les récits, légendes et fables que j'ai pu glaner au fil de mes recherches, que j'ai pu glaner au fil de mes voyages. Aujourd'hui, nous allons parler voyage, aujourd'hui, nous allons parler musique, aujourd'hui, nous allons parler piano. L'histoire d'aujourd'hui ne sera pas contée, mais sera lue. Je vous propose, pour les 3 semaines à venir, une lecture du monologue « Novecento pianiste » d'Alessandro Baricco. L'histoire de ce pianiste sur l'océan. Mais je ne vous en dirai pas plus pour l'instant, alors installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles, car une histoire va commencer. Ça arrivait toujours, à un moment ou à un autre. Il y en avait un qui levait la tête et qui la voyait. C'est difficile à expliquer, je veux dire, on y était plus d'un millier sur ce bateau, entre les rupins en voyage et les immigrants et d'autres gens bizarres et nous. Et pourtant, il y en avait toujours un seul sur tout cela. Un seul qui, le premier, la voyait. Un qui était peut-être là en train de manger, ou de se promener simplement sur le pont, ou de remonter son pantalon. Il levait la tête un instant, il jetait un œil sur l'océan, et il la voyait. Alors il s'immobilisait, là, sur place, et son cœur battait à en exploser. Et à chaque fois, chaque maudite fois, je le jure, il se tournait vers nous, vers le bateau, vers tous les autres, et il criait « L'Amérique ». Et puis il restait là, sans bouger, comme s'il devait rentrer dans la photo. Avec la tête du type qui se l'est fabriqué tout seul, l'Amérique. Le soir après le boulot, et des fois aussi le dimanche. Son beau-frère l'a peut-être un peu aidé, celui qui est maçon. Un type bien. Au départ, il voulait faire juste un truc en contreplaqué, et puis il s'est laissé entraîner, et il a fait l'Amérique. Celui qui est le premier à voir l'Amérique. Sur chaque bateau, il y en a un. Il faut pas croire que c'est le hasard, non ? Ni même une question de bonne vue. C'est le destin, ça. Ces types-là, depuis toujours, dans leur vie, il y avait cet instant-là décrit. Même tout petit, si tu la regardais dans les yeux, en regardant bien, tu la voyais déjà à l'Amérique. Elle était là, prête à bondir, à remonter le long des nerfs ou du sang ou je ne sais quoi, puis de là au cerveau, puis sur la langue, puis dans ce cri. L'Amérique ! Elle était là, déjà là, dans ses yeux d'enfant. Déjà là tout entière, l'Amérique. Là, qui attendait. Celui qui m'a appris ça, c'est Danny Boudman T.D. Lemon Novecento, le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan. Dans les yeux des gens, on voit ce qu'ils verront, pas ce qu'ils ont vu. Il disait ça, ce qu'ils verront. J'en ai vu, moi, des Amériques. 7 ans sur ce bateau, 5 ou 6 traversées par an, d'Europe jusqu'en Amérique et retour, toujours à tremper dans l'océan. Quand tu redescendais à terre, tu n'arrivais même plus à pisser droit dans les chiottes. Les chiottes, ils bougeaient pas, mais toi, tu continuais à te balancer. Parce qu'un bateau, tu peux toujours en descendre, mais de l'océan, non. J'y suis monté, moi, j'avais 17 ans. Et dans la vie, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait pour moi, jouer de la trompette. Alors, quand le bruit a couru qu'il cherchait des gars pour le paquebot Le Virginian, là-bas, sur le port, je me suis mis sur les rangs, avec ma trompette. Janvier 1927. Des musiciens, on en a déjà, me dit le type de la compagnie. Je sais. Et je me suis mis à jouer. Lui, il est resté là à me fixer. Pas un muscle de son visage qui bougeait. Il a attendu que j'aie fini, sans dire un seul mot. Et puis il m'a demandé, c'était quoi ? Je sais pas. Ses yeux se sont mis à briller. Quand tu sais pas ce que c'est, alors c'est du jazz. Puis il a fait un truc bizarre avec la bouche. Peut-être un sourire. Il avait une dent en or juste là, tellement au milieu qu'on aurait dit qu'il l'avait mise en vitrine pour la vendre. Ils en raffolent de cette musique là-haut. Là-haut, ça voulait dire sur le bateau. Et cette espèce de sourire, ça voulait dire que j'étais engagé. On jouait 3-4 fois par jour. D'abord pour les rupins en classe de luxe, ensuite pour ceux des secondes, et de temps en temps, On allait voir ces miséreux des migrants, et on leur jouait quelque chose, mais sans l'uniforme, comme ça nous venait. Et quelquefois, eux aussi, ils jouaient, avec nous. On jouait parce que l'océan est grand, et qu'il fait peur. On jouait pour que les gens ne sentent pas le temps passer, et qu'ils oublient où ils étaient, et qui ils étaient. On jouait pour les faire danser, parce que si tu danses, tu ne meurs pas, et tu te sens Dieu. Et on jouait du ragtime, parce que c'est la musique sur laquelle Dieu danse quand personne ne le regarde. Sur laquelle Dieu danserait s'il était nègre.
Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Signore e Signori, Damas y Caballeros, Mesdames et Messieurs, bienvenue sur ce navire, bienvenue sur cette ville flottante, copie conforme en tout point du Titanic. On se calme, on reste assis. Le monsieur là-haut touche du bois, je le vois. Bienvenue sur l'océan, donc. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? C'était un pari? Vous aviez les créanciers aux fesses. Vous êtes en retard de 30 ans sur la ruée vers l'or. Vous vouliez visiter le bateau, et vous ne vous êtes pas aperçu qu'il était parti. Vous étiez juste sorti acheter des allumettes. En ce moment, votre femme est chez les flics. Elle dit, pourtant, c'était un type bien tout à fait normal, 30 ans de mariage et pas une dispute. Bref, qu'est-ce que vous pouvez bien fiche ici? À 300 000 de n'importe quel bon dieu de monde et à 2 minutes du prochain dégueulis. Pardonnez-moi madame, je plaisantais, ne vous inquiétez pas. Ce navire file tel une boule de billard sur l'océan. Tchac. Plus que 6 jours, 2 heures et 47 minutes et blop, dans le trou. New York! Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de vous expliquer que ce navire est, à bien des égards, un bateau extraordinaire, et tout compte fait, unique en son genre. Sous le commandement du capitaine Smith, claustrophobe notoire et homme d'une grande sagesse, vous avez sans doute remarqué qu'il dort dans un canot de sauvetage, travaille pour vous une équipe pratiquement unique de professionnels qui, tous, sortent de l'ordinaire. Paul Sieszynski, notre pilote, ancien prêtre polonais, sensitif, pranothérapeute, hélas, aveugle. Bill Young, notre radio, grand joueur d'échecs, manchot, affligé de bégaiement. Notre médecin du bord, le docteur Klaus Hermann Spitzfagen-Zorfentag. Pas très pratique en cas d'urgence. Mais surtout, Monsieur Pardin, notre chef cuisinier, arrivé directement de Paris, où il est cependant aussitôt reparti, après avoir constaté de visu que ce navire, par une curieuse coïncidence, est totalement dépourvu de cuisine. Comme l'avait d'ailleurs finement remarqué Monsieur Camembert, cabine 12, qui s'est plaint aujourd'hui d'avoir trouvé son lavabo rempli de mayonnaise. Ce qui est surprenant, car en général, dans les lavabos, nous rangeons les tranches de fromage. Ceci en raison de la non-existence de cuisine, à laquelle il faut d'ailleurs attribuer l'absence sur ce navire de véritables cuisiniers, ce qui était sans aucun doute possible, Monsieur Pardin, aussitôt reparti pour Paris, d'où il arrivait directement, persuadé de trouver ici des cuisines qui, reconnaissons-le, si l'on s'en tient au fait, n'y sont pas. Et cela en raison d'un amusant oubli de l'homme qui a conçu ce navire, l'éminent ingénieur Camilleri, anorexique de réputation mondiale, auquel je vous demanderai de bien vouloir adresser vos applaudissements les plus chaleureux. Croyez-moi, des bateaux comme celui-là, vous n'en trouverez pas d'autres. Peut-être, en cherchant pendant des années, pourriez-vous retrouver un capitaine claustrophobe, un pilote aveugle, un radio qui bégaye, un docteur au nom imprononçable, tous réunis sur le même navire. Et pas de cuisine. Peut-être. Mais ce qui ne vous arrivera plus jamais, ça vous pouvez en jurer, c'est d'être assis là, le cul posé sur 10 cm de fauteuil, au-dessus de plusieurs centaines de mètres cubes d'eau, en plein milieu de l'océan. Avec ce miracle devant vos yeux, cette merveille dans vos oreilles, ce rythme dans vos pieds et dans votre cœur, le sound de l'unique, l'inimitable, l'immensément grand Atlantic Jazz Band! À la clarinette, Sam Sleepy Washington. Au banjo, Oscar de la Guerra. À la trompette, Tim Tooney. Trombone, Jill Jim Breath Gallup. À la guitare, Samuel Hawkins. Et enfin, au piano, Danny Boudman Tidy Lemon Novecento, le plus grand. Était vraiment le plus grand. Nous, on jouait de la musique. Lui, c'était autre chose. Lui, il jouait quelque chose qui n'existait pas avant que lui ne se mette à le jouer, ok ? Quelque chose qui n'existait nulle part. Et quand il quittait son piano, ça n'existait plus. Ça n'était plus là. Définitivement. Danny Boudman, Teddy Lemon, Novecento. Dernière fois que je l'ai vu, il était assis sur une bombe. Sans blague, il était assis sur une charge de dynamite grosse comme ça. Une longue histoire. Il disait « Tu n'es pas vraiment fichu tant qu'il te reste une bonne histoire et quelqu'un à qui la raconter. » Son histoire à lui, c'était quelque chose. Il était sa bonne histoire à lui tout seul. Une histoire dingue à vrai dire, mais belle. Et ce jour-là, assis sur toute cette dynamite, il m'en a fait cadeau. Parce que j'étais son meilleur ami. J'en ai fait des conneries. On me mettrait la tête en bas que rien ne sortirait de mes poches. Même ma trompette, je l'ai vendue. J'ai tout vendu, quoi. Mais cette histoire-là, non. Cette histoire-là, je ne l'ai pas perdue. Elle est toujours là. Limpide et inexplicable, comme seule la musique pouvait l'être quand elle était jouée, au beau milieu de l'océan, par le piano magique de Danny Boudman, Teddy Lemon, Novecento. C'était un marin appelé Danny Boudman qui l'avait trouvé. Il le trouva un matin, alors que tout le monde était déjà descendu à Boston. Il le trouva dans une boîte en carton. Il devait avoir dans les 10 jours, guère plus. Il ne pleurait même pas. Il restait là, sans faire de bruit, les yeux ouverts dans sa grande boîte. Quelqu'un l'avait laissé dans la salle de bal des premières classes, sur le piano. Mais il n'avait pas l'air d'un nouveau-né de première classe. C'est les émigrants qui font ça en général. Ils accouchent à la sauvette, quelque part sur le pont, et ils laissent le gosse là. Pas qu'ils soient méchants, non, mais c'est la misère noire. Un peu comme pour leurs habits, ils montaient à bord avec des pantalons tout rapiécés au cul, chacun avec ses habits qui craquaient partout, les seuls qu'ils possédaient. Mais à la fin, parce que l'Amérique restera toujours l'Amérique, tu les voyais descendre, tous, bien habillés, avec même une cravate les hommes, et les enfants ont des genres de chemises blanches. Ça, il savait y faire. Pendant ces 20 jours de traversée, ça coupait, ça cousait. À la fin, sur le bateau, tu ne retrouvais même plus un rideau, plus un drap, rien. Il s'était fait le beau costume pour l'Amérique. Et à toute la famille, tu pouvais rien leur dire. Enfin bref, de temps en temps, il leur arrivait aussi par là-dessus un mouflet. Autrement dit, une bouche de plus à nourrir pour un immigrant et un sacré paquet d'ennuis à l'office de l'immigration. Alors, il le laissait sur le bateau. En échange des rideaux et des draps, quoi. C'est ce qui avait dû arriver pour ce mouflet-là. Il s'était fait le raisonnement. Si on le laisse sur le piano à queue, dans la salle de bal des premières, peut-être qu'un rupin va le prendre et qu'il sera heureux toute sa vie. C'était un bon plan, qui marcha à moitié. Rupin, il ne le fut pas. Mais pianiste, oui. Et le plus grand. Je le jure, le plus grand. Bon, bref, le vieux Boudman le trouva là et chercha quelque chose disant qui il était. Mais il ne trouva qu'une inscription, sur le carton de la boîte, imprimée à l'encre bleue. T. D. Limoni. Et il y avait un espèce de dessin, avec un citron. Bleu, lui aussi. Danny, c'était un nègre de Philadelphie, un géant d'homme, magnifique à voir. Il prit le bébé dans ses bras, et il lui dit « Hello, Lemon ». Et quelque chose à l'intérieur de lui se déclencha. Quelque chose comme la sensation qu'il était devenu père. Pendant tout le reste de sa vie, il continua à prétendre que T.D. ça voulait dire évidemment « Thanks, Danny ». « Merci, Danny ». C'était absurde, mais il y croyait. Ce mot, on l'avait laissé là pour lui. Il en était sûr. T.D. Thanks, Danny. Un jour, quelqu'un lui apporta un journal où il y avait une réclame et un type avec une tête d'imbécile et des moustaches fines, genre Latin Lover. Et un citron gros comme ça dessiné. Et ce qu'il y avait décrit à côté, c'était « Tano D'Amato, le roi des citrons, Tano D'Amato, le citron des rois ». Avec je ne sais quel certificat de premier prix ou quoi. Tano D'Amato. Le vieux Boudman n'y a pas fait un pli. « C'est qui cet abruti ?» il a dit. Puis il s'est fait donner le journal parce que, à côté de la réclame, il y avait le résultat des courses. Il y jouait pas aux courses. C'était le nom des chevaux qui lui plaisait. Seulement ça. Ah, c'était une vraie passion. Il te disait toujours « Écoute celui-là, écoute, il a couru hier à Cleveland. Écoute, ils l'ont appelé « Cher Chambrouille ». Non mais tu te rends compte? C'est pas du possible. Et celui-là, regarde, peut mieux faire. C'est pas à crever de rire. » Il aimait ça le nom des chevaux. C'était sa passion, quoi. Lequel avait gagné, il s'en tamponnait complètement. Ce qui lui plaisait, c'était les noms. Cet enfant-là, il a commencé par lui donner le sien de nom. Danny Boudman. La seule vanité qu'il se soit jamais accordée. Puis il a ajouté T.D. Lemon. Exactement comme c'était marqué sur la boîte en carton. Parce qu'il disait que ça faisait bien d'avoir des lettres au milieu de son nom. « Tous les avocats, ils en ont, hein ?» confirma Bertie Bum, un machiniste qui avait fait de la prison grâce à un avocat qui s'appelait John P.T.K. Wonder. « S'il fait avocat, je le tue !» déclara le vieux Boudman. Mais il lui laissa les deux initiales à l'intérieur de son nom. Ce qui donna Danny Boudman T.D. Lemon. C'était un beau nom. Ils se l'étudièrent un peu en se le répétant à voix basse, le vieux Danny et les autres, en bas, dans la salle des machines, mais les machines éteintes, tout ça trempant dans l'eau du port de Boston. Un beau nom, finit par dire le vieux Boudman, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque un grand final. C'était vrai. Il lui manquait un grand final. On n'a qu'à ajouter mardi, dit Sam Stull, qui était serveur. Tu l'as trouvé un mardi, t'as qu'à l'appeler mardi. Danny réfléchit un peu, puis il sourit. C'est une bonne idée, Sam. Je l'ai trouvé la première année de ce foutu nouveau siècle, non? On va l'appeler Novecento, 1900. Novecento, Novecento. Mais c'est un chiffre, c'était un chiffre. À partir de maintenant, c'est un nom. Danny Boudman T.D. Lemon, Novecento. C'est parfait. C'est magnifique. Un sacré grand nom. Christ, vraiment un grand nom. Il ira loin avec un nom comme ça. Ils se penchèrent sur la boîte en carton. Danny Boudman T.D. Lemon, Novecento les regarda et sourit. Ils en restèrent baba. Ils n'auraient jamais cru qu'un môme aussi petit puisse faire autant de merde. Danny Boudman resta encore marin pendant 8 ans, 2 mois et 11 jours. Puis, pendant une tempête, au beau milieu de l'océan, il se prit en plein d'eau une poulie devenue folle. Il mit 3 jours à mourir. Il était tout cassé à l'intérieur, impossible de le réparer. Novecento était un gamin à l'époque. Il s'assit à côté du lit de Danny et il n'en bougea plus. Il avait une pile de vieux journaux et il passa ses 3 jours, en se donnant un mal de chien, à lire au vieux Danny qui était en train de casser sa pipe tous les résultats des courses qu'il trouvait. Il mettait les lettres ensemble, comme Danny lui avait appris, le doigt posé sur le papier du journal, les yeux qui ne s'en détachaient pas un instant. Il ne lisait pas vite, mais il lisait. Et c'est ainsi que le vieux Danny mourut sur la 7e course de Chicago, remporté de 2 longueurs par Eau Potable sur Minestrone et de 5 sur Fond de Teint Bleu. Il faut dire qu'en entendant ces noms-là, il n'avait pas pu s'empêcher de rire. Et en riant, il passa l'arme à gauche. On l'enveloppa dans une grande toile et on le rendit à l'océan. Sur la toile, à la peinture rouge, le capitaine écrivit « Thanks, Danny ». Et c'est ainsi que, brusquement, Novecento devint orphelin pour la seconde fois. Il avait 8 ans et derrière lui déjà une 50aine d'allers-retours Europe-Amérique. Sa maison, c'était l'océan. Quant à la terre, eh bien, il n'y avait jamais posé le pied. Il l'avait aperçu, bien sûr, depuis les ports, mais y descendre, jamais. Il faut dire que Danny avait peur qu'on le lui prenne, avec des histoires de papiers, de visas, ce genre de choses. C'est bien qu'à chaque fois, Novecento, lui, il restait à bord. Et puis, au bout d'un certain temps, on repartait. À dire précisément, Novecento, pour le monde, il n'existait même pas. pas une ville, pas une paroisse, pas un hôpital, pas une prison, pas une équipe de baseball où son nom soit marqué quelque part. Il n'avait pas de patrie, il n'avait pas de date de naissance, il n'avait pas de famille. Il avait 8 ans, mais officiellement, il n'était pas né. « Ça pourra pas continuer longtemps, cette histoire hein, », disaient quelquefois les autres à Danny. « En plus, c'est contre la loi !» Mais Danny avait une réponse qui ne faisait pas un pli. « Au cul, la loi !» il disait. On ne peut plus réellement discuter à partir de là. À l'arrivée à Southampton, à la fin de la traversée pendant laquelle Danny était mort, le capitaine décida qu'il était temps de mettre fin à cette plaisanterie. Il convoqua les autorités portuaires et demanda à son second d'aller chercher Novecento. Eh bien, jamais le second ne put le trouver. Ils le cherchèrent dans tout le bateau pendant 2 jours. Rien. Il avait disparu. Cette histoire, personne ne la digérait vraiment parce que il s'y était habitué à ce gamin, finalement, sur le Virginian. Et personne n'osait en parler, mais c'est vite fait de se jeter du haut de la rambarde et la mère, elle fait ce qu'elle veut et... Si bien qu'ils avaient tous la mort dans l'âme quand le bateau est reparti, 22 jours plus tard, pour Rio de Janeiro. Sans que Novecento soit réapparu et sans aucune nouvelle de lui. Comme à chaque fois, au moment du départ, les serpentins, les sirènes, les feux d'artifice, mais cette fois-là, c'était différent. Ils perdaient Novecento, et c'était pour toujours. Quelque chose leur grignotait le sourire, à eux tous. Ça les mordait à l'intérieur. La seconde nuit de la traversée, alors qu'on ne voyait même plus les lumières de la côte irlandaise, Barry, le maître d'équipage, entra comme un fou dans la cabine du commandant et le réveilla, en disant qu'il fallait absolument qu'il vienne voir. Le commandant jura, mais alla voir. Salle de bal des premières. Lumière éteinte. Silhouette en pyjama, debout, à l'entrée. Passagers tirés de leur cabine. Et aussi des marins, et 3 gars tout noirs, montés de la salle des machines. Et même Truman, le radio. Silencieux, tous. À regarder. Novecento. Il était assis sur le tabouret du piano, les jambes pendantes, elle ne touchait même pas le sol. Et, aussi vrai que Dieu est vrai, il était en train de jouer. Il jouait je ne sais quel diable de musique, petite mais belle. Pas de trucage, c'était vraiment lui qui jouait, ses mains à lui, sur ce clavier, Dieu sait comment. Et il fallait entendre ce qui en sortait. Il y avait une dame, en robe de chambre, rose, avec des espèces de pinces dans les cheveux, le genre bourré de fric, si vous voyez ce que je veux dire, une américaine mariée avec un assureur. Eh bien, elle avait des grosses larmes. Ça coulait sur sa crème de nuit. Elle regardait et elle pleurait. Elle pouvait plus s'arrêter. Quand elle vit le commandant à côté d'elle, bouillant de surprise, mais bouillant littéralement. Quand elle le vit à côté d'elle, avec un reniflement, la grosse dame riche, je veux dire, elle montra le piano et en reniflant, elle demanda « S'appelle comment ?»«
Novecento. »«
Pas la chanson, le petit garçon. »«
Novecento. »«
Comme la chanson ?»
C'était le genre de conversation qu'un commandant de marine peut difficilement poursuivre au-delà des 4 ou 5 premières répliques. Surtout quand il vient de découvrir qu'un gosse qu'on croyait mort non seulement était vivant, mais avait entre-temps appris à jouer du piano. Il planta là la grosse dame riche avec ses larmes et tutti quanti, et traversa la salle d'un pas décidé, en pantalon de pyjama et veste d'uniforme déboutonnée. Il ne s'arrêta qu'arriver près du piano. Il y en avait beaucoup des choses qu'il aurait voulu dire à cet instant-là. Entre autres, « Où t'as appris ça, bordel ?» Et aussi, « Où diable est-ce que t'étais fourré ?» Mais comme beaucoup d'hommes habitués à vivre en uniforme, il avait fini par penser, également, en uniforme. C'est pourquoi il dit, « Novecento, tout ceci est absolument contraire au règlement. » Novecento s'arrêta de jouer. C'était un petit garçon qui parlait peu, mais apprenait vite. Avec douceur, il regarda le commandant
Il lui dit « Au cul, le règlement ».
Mon histoire est terminée pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les références des musiques et des contes passés dans l'émission sur la page des contes d'Albatros, sur le site de Radio Campus Rennes. Vous pouvez également me suivre sur Facebook. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de l'histoire de Novecento. Alors, bonne semaine et au revoir. Thank you.